on les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine.
Tranche de vie, vagabondage dans nos existences.
On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits.
Chers auditeurs de Tranche de vie, vous savez que le principe de l'émission, qui a maintenant près de 10 ans, consiste à débusquer la part de singularité que recèle chacune de nos existences. Et aujourd'hui, je suis en présence de Pierre, qui va nous parler de son activité dans la marine marchande, puisqu'il a été associé à cette activité pendant de nombreuses années. Mais il nous parlera aussi d'autres passions. Pierre, bonjour. Merci d'avoir accepté de parler à Radio Libre en Périgord de ta vie et en particulier de ta vie de marin. Est-ce que tu peux nous dire pendant combien de temps tu as travaillé dans la marine marchande et surtout ce qui t'a amené à le faire?
Bonjour. Oui, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la marine marchande. Et ce qui m'a amené à le faire, c'est que j'ai toujours rêvé de naviguer. L'eau m'a toujours attiré. Très vite, je me suis dirigé vers la mer et les activités maritimes.
Donc, il n'y a pas d'atavisme familial.
Mon grand-père, que je n'ai pas connu, mon grand-père paternel, lui, a fait son service dans la marine nationale.
Ce grand-père, il n'y avait pas de tradition. Et pour l'endroit où tu habitais, est-ce que tu as habité près de la mer et que ça a pu jouer un rôle?
Alors, mon père était lorrain, donc ça explique pourquoi il n'était pas très maritime. Et éventuellement, grâce à la guerre, etc., on s'est retrouvé à Marseille, où je suis né. Mais on en est parti très vite et je suis retourné à Marseille que vers 17 ans. Et là, j'ai commencé à fréquenter le Vieux-Port, enfin le club maritime du Vieux-Port. Et j'ai même fini par fréquenter plus le Vieux-Port que le lycée. Ce qui fait que lorsque mon père s'en est aperçu, il a trouvé un moyen de se débarrasser de moi en m'inscrivant dans ce qu'on appelait l'école d'hydrographie à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, qui préparait donc aux carrières maritimes de marine marchande. Et donc j'ai suivi la filière la plus courte parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le bateau à voile. J'avais découvert Bernard Moitessier. Son premier livre m'avait enthousiasmé, Un vagabond des mers du Sud. Et bon, je rêvais de ça tout le temps. Et j'ai cru, là je me suis trompé, j'ai cru que d'entrer par la filière marine marchande, ça me permettrait d'aller plus dans cette direction-là. Et en fait, quand on est sur un cargo, on ne peut pas avoir un voilier par ailleurs, parce qu'il faut s'occuper du voilier, ne serait-ce que payer la place, etc. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai quitté aussi la marine, marine marchande 10 ans après.
Malgré tout, pendant ces 10 ans, est-ce que ça a répondu à une partie de tes attentes?
Ah oui, complètement, oui. J'ai vu plein de pays. Bien, c'est la fonction, entre guillemets, de la marine, hein, de naviguer, de découvrir. J'ai rencontré plein de gens. J'ai de très bons souvenirs. Ouais. Le premier souvenir, par exemple, je me souviens, c'est la première traversée de l'Atlantique. Un cargo, ça ressemble un peu à une boîte à chaussures. Hein, c'est pas très marin comme bateau. Et une grosse mer sur le nez, comme ça, beaucoup de tangage et tout. Et je demande au second. Alors moi, j'étais un pilotin, ça s'appelle, à l'époque, apprenti en quelque sorte. Et je lui dis, ça arrive quelquefois que le cargo chavire? Il me dit, oui, ça arrive. Ouais, c'est un souvenir qui me reste un petit peu d'émotion. Bon,
est-ce que j'imagine que tu as eu d'autres émotions et d'autres genres, mais ça, on en parlera après. Alors, tu as navigué essentiellement sur, enfin, uniquement sur des cargos, mais tu as fait quelle destination et tu as navigué surtout à partir de Marseille ou...
Alors, surtout à partir de Marseille. Ma compagnie était basée à Marseille, oui, ça s'appelait Frycinet Cyprien Fabre, oui. Enfin, ça a changé beaucoup de noms. Et j'ai navigué principalement sur les cargos, mais deux fois sur des paquebots, pour juste un voyage. Oui. Et ma destination principale, c'était à partir de Marseille, on allait remplir le bateau en Italie, et de là, on partait, en s'arrêtant parfois en Espagne ou au Portugal, on partait sur les grands lacs américains, c'était la ligne principale. Donc on remontait le Saint-Laurent et on faisait tous les grands lacs jusqu'à Chicago. Et puis je suis allé donc jusque sur le lac supérieur.
Même. Bah, Marseille.
Et l'hiver, puisque là l'hiver, le Saint-Laurent, oui, le Saint-Laurent s'est fermé l'hiver, il est dans la glace. On faisait la côte d'Afrique,
ah, oui.
Jusqu'en Angola. C'est les deux points, les voyages principaux qu'on fait.
Et donc l'hémisphère sud, en dehors de l'Angola, tu as eu alors, une expérience aussi.
Oui, avec un paquebot à ce moment-là, on allait jusqu'à Buenos Aires. Puis le paquebot, ça change les cargos, évidemment, ça n'a rien à voir.
Ça bouge moins en principe.
Oui, ça bouge pas. Oui.
Parce que les cargos que tu as utilisés, c'était pas des porte-conteneurs.
Moi, j'ai eu la chance de quitter la marine marchande à l'aube des containers. Oui. On commençait à en voir un, deux, par-ci, par-là. Et maintenant, je les trouve horribles, ces pauvres bateaux avec leurs boîtes là, entassées. Quoi. C'est vraiment...
Tu parlais de boîtes à chaussures tout à l'heure, c'est oui. Tout à fait ça. Hein.
Oui. Ça, oui, j'ai connu que le début, vraiment, à peine. À peine. Bon, sur la côte d'Afrique, par exemple, on transportait beaucoup de billes de bois.
Oui.
Et donc des gros troncs d'arbres, puisqu'en Afrique les arbres sont énormes, et on en avait même sur le pont. Alors ça, on remplissait les cales avec, on avait sur le pont comme ça faisait presque comme des voiles. Et je me souviens même qu'un jour, en remontant donc au large du Sahara, on avait l'armatan un peu sur le nez.
Tu vas nous raconter une histoire à la Conrad, là, il y a un arrimage mal fait.
Non, il était bien fait, mais il était tellement bien fait que on a passé une journée à reculer sur le fond. C'est-à-dire, en avant toute, on allait en marche arrière, en fait, par rapport au fond. C'était tellement il y avait une prise au vent sur le, avec tous ces billes de bois entassées sur le pont qui montaient très haut, en fait. Et ça doit arriver aux bateaux qui débordent de containers, là, jusqu'à...
C'est la question que je me pose quelquefois en voyant ceux de nouvelle génération qui sont tellement hauts et tellement massifs.
Oui. Moi, j'ai la chance, c'était pittoresque encore. J'étais sur la côte d'Afrique, par exemple, on est à Cotonou, il n'y avait pas de port.
Oui.
C'était des barques qui déchargeaient. Et on attendait chacun son tour, les bateaux étaient au mouillage, on pouvait rester 8 jours ou même plus. On l'attendait, de temps en temps, il y avait un petit orage un peu fort, une tornade, et puis ça, hop, puis ça varie un peu. Et même les passagers, on les débarquait avec les grues du bateau, c'était assez pittoresque. Cotonou, Lomé, il n'y avait pas de port. Abidjan, il y avait un port. Et l'autre était Accra.
Oh là, Accra, oui. C'est comment s'appelle le port de...
Oui, c'était sympa.
Lomé, oui. Alors Lomé, quand tu as fréquenté Lomé, il ne devait pas encore y avoir de port, puisque moi j'ai travaillé au Togo dans les années 70 et il y avait un port tout neuf.
Oui, tout neuf. Voilà, moi c'était un peu avant. Oui. Et je ne sais plus dans lequel des deux, là aussi j'ai un souvenir, où on avait sur le quai un amoncellement de chasse-neige. Qui venait de Russie.
C'est à Conakry, probablement, après l'indépendance.
C'est à Conakry, oui, c'est à Conakry. Des chasse-neige qui rouillaient sur le quai, évidemment. Et des bidets aussi. Oui. Un cadeau de l'URSS au peuple Conakry.
Donc ça, ce qui a été présenté, effectivement, aux auditeurs et aux téléspectateurs à l'époque, tu l'as vu de tes yeux. Donc cette livraison à la Guinée indépendante en 1960 d'objets par l'Union soviétique qui seraient complètement inutiles au pays, a vraiment eu lieu.
Ah oui, oui, ça j'ai vu de mes yeux. C'était mon rôle quand j'étais élève officier, donc de relever le nom de tous les bateaux qui avaient une étoile rouge sur les cheminées, donc tous les bateaux soviétiques, etc., de tous les pays.
Ouais.
Donc je me suis renseigné pour savoir d'où ça venait, parce que ça nous faisait rire. Le monde disait, mais qui peut livrer des trucs pareils? Donc oui, je confirme, je l'ai vu. Ouais.
Donc ça, c'était ce travail que tu avais à faire. Alors c'est intéressant aussi, parce que il y avait une espèce de surveillance du trafic maritime de l'Union soviétique à l'époque.
Ah oui, c'était une sorte d'espionnage.
Oui, ben ça, c'était un aspect de la guerre froide.
Oui, voilà, oui. On signalait donc à je sais pas qui, hein, c'est le commandant qui s'en chargeait, la présence de ces bateaux partout où on les voyait. Ouais. Ouais.
Bon, alors, la vie à bord, enfin, Fraissinet, c'était quand même une grande compagnie. mais les cargos de la compagnie, les cargos que tu as utilisés, c'était des cargos qui étaient en bon état? Est-ce que c'est des cargos qui correspondent à la littérature classique maritime, où on voit des cargos déjà d'un certain âge, avec un équipage un peu interlope, de gens un petit peu sortant de l'ordinaire? Quelle a été l'ambiance sur les cargos que tu as fréquentés?
Alors, la plupart, c'était des bateaux qui n'étaient pas en très bon état. Et le pire que j'ai fait, c'était un Liberty Ship, donc construit pendant la guerre par les Américains. Et ils en faisaient tellement que les Allemands n'arrivaient pas à les couler. Donc à la fin de la guerre, il en restait tant qu'ils en ont fait cadeau à l'Europe. Et par exemple, sur ce Liberty Ship-là, qui s'appelait le 7, tout le bas des échelles était rouillé. Donc quand on descendait, ça tenait plus au pont. Et ça faisait comme une harpe. Ça faisait quand on descendait et tout. Et la machine, c'était incroyable. Les moteurs étaient sans capot, sans rien. On voyait les bielles qui te passaient au-dessus de la tête quand tu rentrais dans la... J'y allais pas souvent, parce que moi j'étais officier pont et la machine, c'était pas mon truc. Mais c'était vraiment impressionnant comme bateau.
Mais parce que pour les auditeurs, on rappellera que ces Liberty Ships étaient des bateaux qui avaient été construits très rapidement et d'une manière aussi sommaire que possible, justement, pour cette raison.
4 par jour, ils en sortaient en Amérique à l'époque. Ils avaient calculé que les Allemands en vont courir 2 par jour. Donc
ces bateaux sont les bateaux qui ont été les instruments du plan Marshall après, pour transporter tout ce qui a été transporté en Europe des États-Unis pour aider à la reconstruction de l'Europe, mais qui ont vu une vie par la suite, qui a été plus ou moins longue, et comme celle dont Pierre vient de nous parler. Alors ça, c'est vraiment une expérience intéressante. Et maintenant, alors, les équipages, à quels équipages as-tu eu affaire?
Donc, de mon temps, encore une fois, je ne sais pas si ça a changé ou non, on était forcément français, de nationalité française.
Ah oui.
Et sauf les...
Donc pas de Philippins, pas de Basques.
Les seuls qui étaient autorisés à naviguer, c'était ceux qui étaient des anciennes colonies, comme le Vietnam, enfin l'Indochine. Et souvent, les garçons de cabine, qui s'occupaient des cabines des officiers, étaient des Vietnamiens.
Et comme les Philippins dans la marine américaine.
Oui, voilà, oui, oui. Et donc, bon, je me souviens qu'ils parlaient plus ou moins bien français. Pour les repas de midi, par exemple, le cuisinier lui disait: « Lieutenant, tu veux œuf saignant ou pas saignant ?» Pour lui, il avait bien cuit ou pas cuit. C'était sympa. Mais sinon, les gens étaient normaux. C'était un milieu sans femmes.
Oui. Une dans chaque port, quand même. Hein.
Oui.
Est-ce que cet aspect-là, tu l'as, ce romantisme de la marine qui a été popularisé par les films, en particulier avant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu l'as ressenti?
Non.
Je ne te pose pas de questions indiscrètes, évidemment, pour savoir si tu avais une femme dans chaque port, mais est-ce que tu as ressenti cette espèce de romantisme de la marine?
Alors, si c'est la motivation pour naviguer, oubliez, ça ne marche pas du tout comme ça. Parce que quand on est au port, on travaille.
Oui.
Les matelots nettoient le bateau, surveillent les cales. Il y a un officier de garde donc, qui est à bord et qui n'a pas le temps de sortir. Et l'autre peut éventuellement sortir, mais comment rencontrer les gens? On va dans les bistrots, dans les boîtes de nuit, donc ce n'est pas des gens fréquentables qu'on rencontre, si on veut rencontrer des gens comme ça.
Donc on va au foyer du marin et on n'en sort pas?
Par exemple, oui, oui. Mais ça peut arriver. Moi, je me souviens, en Amérique, j'ai été de garde, je ne sais plus dans quel port, c'était sur les Grands Lacs, hein. Je ne me souviens plus. Une voiture arrive, des gens sortent, une famille américaine, et ils me posent une question, on commence à discuter. Le soir même, ils m'avaient invité chez eux. Parce que ça, les Américains étaient assez ouverts à l'époque, ils invitaient facilement. Mais c'est très très rare. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai même rencontré celle qui a été ma première femme, parce que son père était passager. Parce que sur les cargos, on pouvait prendre un certain nombre de passagers, je crois que c'était moins de 13.
Donc, c'est toujours le cas, hein. La plupart des cargos ont quelques cabines et puis proposent justement de prendre des passagers.
Oui, alors l'intérêt, c'est que c'est sûrement moins cher, et puis il faut avoir moins d'un certain nombre pour ne pas être obligé d'avoir un médecin. Le médecin à bord, c'était moi souvent. Il valait mieux pas tomber malade quand même. On avait ce qu'on appelait le médecin de papier.
Ah oui, non, mais il y a des limites d'âge, je sais, par exemple, pour avoir exploré un petit peu ce sujet. que la CGM, c'est une limite d'âge très stricte et ils ne veulent pas. Ou alors, les cargos qui n'ont pas de chambre froide ne prennent pas de personnes d'un certain âge pour éviter d'avoir à les conserver.
Ou à les jeter par-dessus bord. Non, mais là, je ne sais pas s'il y avait une limite d'âge, parce que c'était un passager qui venait de me tenir compagnie. Moi, je faisais le quart de midi à 5 heures, par exemple, l'après-midi. Il venait me tenir compagnie, on bavardait. C'était un monsieur assez âgé, quand même. Et donc, il y avait sa fille à Chicago, et lui, il était collectionneur notamment de pièces d'or, et il avait invité sa fille à bord pour lui mettre subrepticement les pièces d'or qu'il voulait faire rentrer aux États-Unis, parce qu'à l'époque, c'était interdit de faire rentrer de l'or aux États-Unis. Sa fille était d'ailleurs furieuse quand elle a appris ça. Mais bon, comme ça m'a permis de connaître sa fille, et un jour, quelques temps après, de l'épouser. Donc on peut aussi rencontrer une des femmes de sa vie en naviguant, ça arrive.
J'espère qu'elle a emmené les pièces d'or de son père avec elle.
Oui, tiens, ça, je ne lui ai jamais posé la question. C'est un peu tard. Non, mais...
Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu des ports que tu as visités? Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que quand même, il y avait un confinement par la force des choses, par les nécessités du service qui était soit à bord, soit dans des lieux très limités à terre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance quand même des ports que tu as fréquentés?
Les ports, ça ressemblait un peu à ce qu'on voit dans les films de l'époque, parce que justement, il n'y avait pas de containers. Donc, il y avait toutes ces grues, pas aussi grandes.
Ah, tu parles des films d'avant les containers.
Oui, mais encore une fois, c'est une marine que je ne connais pas, la marine à containers. Et je ne regrette pas de ne pas connaître, d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'il faut des tournées. C'est comme les chauffeurs routiers, oui, pour les camions. Hein, ça arrive, ça se vide, ça se remplit, ça repart. Nous, on pouvait rester jusqu'à 8 jours dans un port. Bon, j'ai fait une expérience, on était... Alors, c'était Port Alfred, je crois, c'est au nord du lac supérieur, vraiment tout au nord du lac supérieur. On est resté 8 jours pour construire des bardis dans les cales. Les bardis sont des cloisons en bois qu'on construit pour charger après du blé ou du grain en vrac. D'accord. Parce que le grain en vrac, c'est comme de l'eau.
Pour compartiment.
Voilà, pour compartimenter, pour pas qu'il fasse chavirer le bateau, en fait. Donc, il faut que ça soit très solide et tout. Puis ensuite, en même pas une journée, avec d'énormes refouleurs, ils ont rempli le bateau. On le voyait descendre à vue d'œil, donc c'était vraiment impressionnant. On est parti de là sans escale, donc tous les grands lacs, Saint-Laurent, etc., jusqu'à Lisbonne. Et arrivé à Lisbonne, sur le quai nous attendaient les dockers avec un seau et une pelle chacun. Donc je ne sais plus combien de jours ils ont mis pour le vider ce bateau, mais ça a été plus de 8 jours. Quoi. C'était le genre de voyage là qu'on faisait. Ouais. Ou bien on chargeait des sacs de blé à Chicago, donc avec les dockers américains, etc. Et puis l'appareil direct Chicago-Alexandrie. Et à Alexandrie, les types étaient un sac sur le dos chacun, et ils descendaient le long de grandes planches qui vibraient aussi, parce que le quai était éloigné, parce que le port était en sable.
C'est ce qu'on voit dans les films de cette époque.
Oui, c'était ça. Donc moi, j'ai quitté la marine marchande en 68, donc jusqu'en les années 60.
Alors tu as fait allusion à Alexandrie, tu as navigué aussi en Méditerranée.
Oui,
en partant de Marseille.
Oui, parce qu'on partait de Marseille, donc on remplaçait la plupart du bateau en Italie, oui. Notamment de vin de messe pour les prêtres québécois. D'accord. Qui appréciaient le bon vin. De petites bricoles italiennes, je ne sais pas comment ils appelaient ça.
C'est vraiment étonnant ce que tu es en train de nous dire là, des cargaisons de vin de messe.
Des cargaisons, oui, destinées.
Des parties de cargaisons.
Oui, on remplissait pas une cale, mais c'était fait partie de la cargaison régulière. Oui. Il faut dire qu'à l'époque, au Québec, oui. L'église était très puissante. D'ailleurs, sur les cartes, c'était marqué que les clochers des églises sont plus remarquables que les phares. Alors, remarquables, sont des amers remarquables, c'est des repères sur Terre pour savoir où on est. Ils disaient, recherchez les églises, les phares, vous ne les voyez pas.
Et est-ce que tu as des souvenirs d'autres ports de la Méditerranée, le port Saïd ou bien des ports loin de Beyrouth?
Alors non, Beyrouth, port Saïd, tout ça, je n'avais pas fait. Israël, j'ai pas fait non plus. J'ai fait beaucoup l'Afrique du Nord. J'ai fait aussi Marseille, Beaune. Alors on appelait comme ça maintenant. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Beaune, Alger. Enfin des ports. On faisait une sorte de commerce de Marseille. On embarquait des vaches qu'on libérait, donc à Alger par exemple, En hiver, la Méditerranée fait très mauvais, et les vaches avaient le mal de mer. Et un ruminant qui a le mal de mer, c'est impressionnant, parce qu'il a une quantité de trucs à vomir. Elles pataugeaient dans le vomi, dans leur vomi jusqu'au genou, pratiquement. On faisait un coup de lance pour nettoyer tout ça, et après, on embarquait les travailleurs algériens qui venaient travailler en France, au même endroit.
Parce qu'on était en plein dans les Trente Glorieuses, et donc il y avait un mouvement, effectivement, de travailleurs massifs d'Algérie qui venaient travailler en France dans ces années 60, qui étaient aussi les années, au moment de la fin, ou de postérieure à la, juste postérieure à la guerre d'Algérie.
Oui, moi je suis arrivé la première fois en Algérie, même pas 8 jours après la fin de la guerre. Ouais. Et ces pauvres gens, ils ne voulaient pas rester dans la cale, parce que bien sûr, ça sentait mauvais. Mais on leur expliquait qu'il fallait qu'ils restent dans la cale, parce qu'il faisait trop mauvais. Oui, puis c'était un vieux bateau. On avait jusqu'à 1 mètre d'eau sur la passerelle, quand on rentrait dans une grosse vague, tu vois, ça rejaillissait. On se baignait sur la passerelle qui est à 30 mètres de haut, quand même.
Ça, c'est des souvenirs que toi, tu as et que tu n'aurais pas eu si tu avais navigué uniquement sur des porte-containers de 250 mètres et plus.
Exactement. Et on n'avait pas besoin de sirène pour arriver à Marseille. Le bateau sentait tellement mauvais, ces pauvres gens qui avaient été malades, que de loin, ils nous sentaient arriver, tu vois, même dans la brume. C'était terrible.
Est-ce que tu as d'autres souvenirs? Est-ce que tu as des souvenirs de moments où tu as pu avoir peur? Là, tu as évoqué ces traversées de la Méditerranée qui avaient un côté quand même émouvant, aussi bien si on considère la situation des animaux que tu transportais que des personnes que tu transportais sur le chemin du retour. Est-ce qu'il y a eu des moments où dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique, tu as vraiment eu peur?
Alors j'ai un souvenir, comme ça remonte à quelques siècles presque, j'ai un souvenir mais qui est plus très précis, mais on a failli avoir une collision avec un bateau du côté de Gibraltar, où il y a un gros trafic de toute façon, et on s'est frôlé. Et je me souviens que, bon, alors j'étais élève à l'époque, hein, j'étais élève officier. Je me souviens qu'après...
De nuit ?
Oui, bien sûr, oui, de nuit. Oui. Bon, il y a les radars et tout, hein, mais je ne sais plus les circonstances. On s'est frôlé, on a vu le bateau passer juste à côté. Et je me souviens qu'après, je suis monté au-dessus de la passerelle, il pleuvait en plus. Et j'ai fait, qu'est-ce qu'on se sent bien quand c'est fini, ce genre de truc. Oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Donc ça, c'est le souvenir où j'avais eu peur. Mais sinon, non, je ne me souviens pas avoir eu vraiment peur. Non.
Mais alors, les équipages sur les bateaux que tu utilisais, c'était des équipages qui étaient, qu'on pouvait considérer comme pléthoriques par rapport aux équipages qu'il y a maintenant sur les porte-containers. Moi, j'ai navigué sur un porte-container de 250 mètres. On était 25.
Ah oui, nous on était une trentaine, oui. Donc des bateaux beaucoup plus petits, hein. ça faisait 130 mètres un cargo. Hein. On était une vingtaine entre la machine et le pont, oui.
Tu as pris en dehors du Liberty Ship dont tu parlais tout à l'heure, tu as pris des cargos vraiment pourris
Alors, vraiment pourris, non, mais des cargos qui étaient vieux. Oui. Et celui qui faisait la Marseille-Alger, c'était un mixte, moitié cargo, moitié pas beau.
Ah oui, oui. Hein. Oui, souvent ces cargos mixtes qui desservaient justement les anciens territoires coloniaux, puisqu'il y avait tous les fonctionnaires à transporter.
Et on a eu tellement mauvais temps, mais tellement mauvais temps. Alors je partageais la cabine avec un autre élève officier et il dormait sur la couchette au-dessus. Et donc on roulait et c'était pas possible. Et à un moment, on a eu un coup de roulis tellement fort que je me suis accroché au matelas de ma couchette et je suis parti avec. Et je suis tombé donc sur le sol de la... Et lui qui... Alors oui, non, c'est moi qui couchais au-dessus, c'est ça. Donc je suis tombé d'assez haut quand même. Mais bon, sur le matelas, donc je ne me suis pas fait mal. Mais lui, il ouvre les yeux et il ne me voit plus. Il se précipite par le hublot, il crie « Pierre !»
Ah oui.
Il avait cru que j'étais passé à travers. C'est pour dire qu'est-ce que ça remuait, c'était incroyable. Ouais. On a eu des mauvais temps. C'est en Méditerranée que j'ai eu le plus mauvais temps de tous. Hein. Ah oui.
Est-ce que tu as jamais écrit sur ces expériences-là, qui ont duré quand même assez longtemps et puis qui ont été marquantes pour toi, qui à l'époque était quand même un homme plus jeune que maintenant ?
Oui, beaucoup plus jeune, merci de l'avoir remarqué. Et non, j'ai pas écrit, c'est dommage, parce que c'est vrai que ça aurait pu faire des histoires sympas. Mais maintenant, c'est un peu trop flou, c'est un peu trop loin tout ça dans ma mémoire. Puis, tu le sais, la mémoire, ça s'arrange pas. Parce que j'ai quitté la marine marchande, donc, pour naviguer sur mon bateau.
Alors là, on est passé à la marine à voile. Et là, ça, c'est une expérience qui était une expérience personnelle,
oui.
Et qui a duré.
Le drame de ma vie, c'est les femmes. Donc ça a duré le temps que me rejoigne cette Américaine, la fille de ce passager que j'avais rencontré chez Chicago, qui n'était pas faite du tout pour naviguer sur un voilier ou sur autre chose d'ailleurs. Ce qui fait que très vite, j'ai vendu le bateau et je suis reparti en Amérique avec elle. Et ça m'a bien servi pour la suite, puisque je parle anglais et que c'est très utile de parler anglais, même encore aujourd'hui.
Donc tu as abandonné donc cette navigation, tu la faisais à titre commercial, tu convoyais des bateaux, ou bien c'était un bateau qui t'était personnel?
Non, c'était un bateau à moi, un petit trimaran, oui. Qui avait été dessiné et construit par l'architecte qui s'appelait André Allègre, et qui a dessiné le trimaran de Tabarly, qui est devenu celui d'Alain Colas, oui. Manureva, je crois qu'il s'appelait, avec lequel il a disparu. Ça. Alors moi, c'était un trimaran de plaisance. Hein. Je déteste les histoires de courses et tout ça.
Qui, pour l'époque, était considéré comme le nec plus ultra.
Ah, puis c'était un truc bizarre. C'est arrivé dans un port, il y avait foule. « Ah, vous êtes qui? Vous êtes pas machin vous... ?» Un bateau de 7 mètres.
Enfin, ça, c'est quand même une expérience extraordinaire qui a duré combien de temps?
Oh, peut-être 2 ans, je dirais. En exagérant peut-être un peu, 1 an et demi, 2 ans. Oui.
Ça a dû être terrible d'abandonner ce genre de vie-là.
J'en souffre encore. Oui. Ouais. Mais maintenant, ça manque, hein, le bateau, encore maintenant. Ouais. Alors, par contre, j'ai pas écrit vraiment des souvenirs, mais j'écris beaucoup de poèmes. À l'époque, j'écrivais beaucoup de poèmes. Et donc, sur la marine à voile, le vécu de ce qu'on peut vivre sur un voilier.
Quel dommage que j'ai pas su ça avant de te rencontrer, parce que tu nous aurais lu une de tes productions. Mais l'occasion n'est pas perdue. Pour autant, on va en revenir là-dessus. Comme on approche de la fin, je voudrais quand même te poser la question que je pose à tous mes invités. Les bateaux, la marine, la mer ne remplissent plus ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as d'autres passions qui te permettent de justement d'affronter le temps qui passe?
Alors, ça ne remplit plus ma vie, ça remplit mes rêves et mes écrans d'ordinateur, parce que j'ai toujours des voiliers comme fond d'écran. Sinon, comme passion, je sais que ça sert à améliorer les choses et tout, mais en plus, j'ai un bateau en fibre de verre, et en plastique, pour moi, c'est une baignoire, donc j'ai du mal avec ça.
Le même ostracisme que pour les porte-containers.
Oui, voilà. Mais je sais que c'est un préjugé, hein, parce qu'il y a des très beaux bateaux, mais oui, j'aime pas. Oui. Mais non, disons que la marine, ça reste des histoires de rêves. Puis je regarde toujours les bateaux et tout. Hein. J'ai développé une curiosité passionnée, on va dire, pour le gréement chinois. Les Chinois, c'est les meilleurs dans tout. Ils ont inventé le gouvernail, ils ont inventé la vraie voile qui sert à quelque chose. Donc voilà, je lis des trucs, je regarde des vidéos. J'ai un rameur à la maison, un appareil pour ramer. Oui. Je me mets une vidéo de traversée de l'Atlantique et je rame. Et je me dis, tiens, lui, pourquoi il fait ça? Oh, il va avoir un problème. Ah, hop, c'est bon, il a un problème. Enfin, tu vois, je m'occupe. Ça me permet de ramer sans m'embêter trop. Donc la marine n'est jamais très loin quand même. Mais donc même passion maintenant, ce que je fais beaucoup comme travail, c'est la traduction.
Tu peins aussi, mais tu peins.
Et je peins, oui, je peins aussi.
On découvre, voilà, c'est bien le principe de l'émission. On commence à parler avec un invité, et puis petit à petit, on s'aperçoit que cette personne a fait des tas de choses originales, intéressantes, et le temps n'est jamais suffisant pour les explorer toutes. Ta peinture, tu peins depuis combien de temps, et qu'est-ce que tu peins?
Et je peins surtout soit des paysages. J'adorerais peindre des portraits, mais j'ai beaucoup de mal. Alors donc, c'est surtout figuratif. J'ai rien contre l'abstrait, mais bon, ça ne m'inspire pas de le faire moi. Mais j'écris surtout. Encore une fois, j'écris donc des traductions. J'écris encore des poèmes. Je me suis remis un peu de temps, et sur le couscous. C'est très drôle parce que... On est allé manger chez un ami qui nous avait fait un couscous extraordinaire.
Et donc des poèmes gastronomiques.
Gastronomiques, voilà. Et puis il se trouve que j'en suis à mon 4e de poèmes sur le couscous, parce qu'avant-hier, on allait manger encore chez lui.
On aura l'occasion de reparler de ça. Merci, on est malheureusement arrivé au bout de ce petit entretien, trop court comme d'habitude, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on s'aperçoit que chacun d'entre nous recèle des richesses et qui ne demandent qu'à être révélées. Merci encore, merci beaucoup, bonne continuation, bon rêve et bonne poésie.
Puis merci d'avoir fait revivre un peu de ma jeunesse.
C'est l'alcor de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, mais on devine, ça sera pas le paradis. On aura beau se dépêcher, faire bon Dieu la pire.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Ça ne sera pas ça, et pourtant, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour.